Chapitre 5 Cauchemar et cataclysme. Nous en arrivons à présent à l'horrible expérience vécue par le docteur Willett, aventure qui lui marqua l'âme au fer rouge et le fit littéralement vieillir de 10 ans. Après de nombreuses discussions avec M. Ward, les deux amis étaient parvenus à un certain nombre de conclusions qu'ils ne tentèrent même pas d'aborder avec les psychiatres de peur d'en être la risée. Il y avait, pensait-il, un mouvement occulte, avec des ramifications dans le monde entier, qui était l'héritier d'une nécromancie encore plus ancienne que la sorcellerie de Salem. Bien que cela contrebatte les lois élémentaires de la nature, il était évident que deux personnes, et une troisième à laquelle il préférait ne pas penser, étaient capables de posséder les esprits ou les personnalités de disparus qui avaient vécu vers 1690 et même avant. Ce que ces deux individus, ainsi évidemment que Charles, faisaient ou tentaient de faire, n'était hélas que trop clair. Ils pillaient des tombes de toutes les époques, particulièrement celles d'hommes illustres, dans l'espoir de recueillir les vestiges de la conscience qui les animait en leur temps. Cette quête insensée donnait lieu à un trafic monstrueux, dans lequel des ossements de renom passaient d'un profanateur à l'autre, un peu comme les billes que les écoliers s'échangent. De ces cendres séculaires, il comptait obtenir un savoir et des pouvoirs tels qu'il n'y en eût jamais concentré aux mains d'un si petit groupe d'hommes. Ils avaient dû trouver un moyen, contre nature, pour conserver leurs esprits vivants dans leur corps ou dans un autre réceptacle, et mis au point une méthode pour extraire des informations de la conscience des défunts ainsi ravivés. Il semblait bien qu'il y ait eu une part de vérité dans les chimères de ce Borellus, lorsqu'il écrivait que certains sels essentiels permettaient de ramener un mort à la vie. Il y avait une formule pour invoquer le trépassé et une autre pour le révoquer. La méthode avait été si bien perfectionnée qu'on arrivait même à l'enseigner avec succès à des néophytes. Mais il convenait d'être circonspect car les noms sur les anciennes tombes n'étaient pas toujours exacts. Tremblant d'horreur, M. Ward et le docteur Willett allaient ainsi d'une conclusion à la suivante. Des êtres ou des voix pouvaient également être invoqués de lieux inconnus autres que des tombes, mais ce processus nécessitait également une grande prudence. Joseph Curwen avait indiscutablement fait surgir un grand nombre de ces entités interdites. Pour ce qui était de Charles, que fallait-il croire ? Quelle force venue de l'époque de son aïeul maudit, d'au-delà des sphères, comme il disait, l'avait donc atteint et rendu obsédé par le passé. Il avait été guidé vers certaines découvertes qu'il avait ensuite poursuivies par lui-même. Il était entré en relation avec cet horrible Hongrois, il avait rejoint dans son château en Transylvanie, où il était resté plusieurs semaines. Puis enfin, il avait dû trouver la tombe de Joseph Curwen. Les articles de journaux et ce que sa mère avait entendu étaient très explicites à ce sujet. Ensuite, il avait invoqué quelque chose qui avait surgi du néant. Cette voix puissante venue d'en haut le Vendredi Saint, celles multiples et différentes dans le laboratoire verrouillé au grenier. De quoi venait-elle donc pour être si profonde et si caverneuse ? N'était-ce pas là un prélude à l'étrange et effrayant docteur Allen à la base spectrale ? En tout cas, c'est ce que M. Ward avait pensé au cours de son unique conversation téléphonique avec cet homme, si homme ce fut jamais. Quelle entité ou voix démoniaque, quelle ombre ou présence morbide avait répondu au rite pratiqué par Charles derrière la porte fermée à clé ? Ces voix qui discutaient et l'une qui déclarait « Il faut le maintenir rouge pendant 3 mois. Seigneur, n'était-ce pas juste avant cette vague de vampirisme et la destruction de la sépulture d'Ezra Whedon et les cris à Potoxet ? Quel esprit avait ainsi prémédité sa vengeance et retrouvé les lieux maudits d'anciens blasphèmes ? Et puis il y avait le bungalow et son étrange occupant barbu, les ragots et la peur. Ni le docteur Willett, ni M. Ward ne pouvaient expliquer la folie de Charles, mais ils étaient sûrs d'une chose. L'esprit de Joseph Curwen était revenu ici-bas et avait repris ses anciennes pratiques impies. La possession démoniaque est-elle une réalité? Allen y était-il pour quelque chose? Certainement les détectives en apprendraient davantage sur celui qui menaçait à présent la vie du jeune Charles. Entre-temps, puisque l'existence de souterrains sous le bungalow semblait un fait établi, il fallait les trouver. Aussi, Ward et Willett, en se gardant bien d'en parler au psychiatre dont ils savaient le scepticisme, décidèrent, au cours de leur dernière conversation, d'entreprendre ensemble des fouilles secrètes et minutieuses et de se retrouver au bungalow dès le lendemain avec des valises et tous les outils indispensables à une exploration souterraine et architecturale. Le 6 avril, par une belle matinée claire, les deux explorateurs arrivèrent au bungalow vers 10 heures. M. Ward avait la clé et ils commencèrent par une visite sommaire. D'après le désordre qui y régnait, on pouvait conclure que les détectives étaient passés avant eux. Néanmoins, ils espéraient encore trouver des indices intéressants. À l'évidence, il fallait se concentrer sur la cave. Ils y descendirent sans plus attendre, empruntant le même chemin qu'ils avaient vainement suivi en présence du jeune propriétaire à l'esprit vacillant. Ils ne surent trop par où commencer, car le sol en terre battue et les murs de pierre semblaient si innocents et tout d'une pièce qu'on pouvait s'interroger sur l'existence d'une ouverture. Willett émit l'hypothèse qu'à la construction du bungalow, la cave avait dû être creusée en ignorant tout des catacombes qui se trouvaient en dessous, et que dans ces conditions, le passage secret devait être un ouvrage récent, réalisé par le jeune Charles et ses associés, qui avaient dû sonder la cave à la recherche d'anciens souterrains, dont l'existence leur avait sans doute été révélée par des moyens peu avouables. Le docteur tenta de se mettre dans la peau de son jeune patient, et se demanda comment un archéologue procéderait. Mais cette méthode ne lui donna guère d'inspiration. Il procéda alors par élimination en considérant méticuleusement chaque décimètre carré au sol et sur les murs. À la fin, il n'y avait plus qu'une possibilité, une petite plateforme située devant l'écuvier. Bien sûr, il l'avait déjà examinée, mais il recommença, en y exerçant cette fois des forces dans tous les sens possibles, pour découvrir enfin que le dessus pivotait horizontalement autour d'un axe fixé dans un coin. En dessous, il y avait une surface cimentée avec un trou, assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser, et recouvert d'une plaque métallique. M. Ward se précipita vers ce passage et entreprit d'ôter le couvercle qu'il fermait. Il y était facilement parvenu, lorsque soudain, le docteur Willett remarqua son étrange attitude. Il dodelinait et vacillait. Mais à l'odeur immonde qui s'élevait du puits noir, le médecin comprit bientôt ce qui lui arrivait. Il tira son compagnon, le remonta au rez-de-chaussée, l'allongea sur le sol et le ranima avec un peu d'eau froide. M. Ward revint à lui doucement, mais il était visible que cette bouffée méphitique provenant de la crypte l'avait sérieusement affecté. Ne voulant prendre aucun risque, Willett alla chercher un taxi sur Broad Street et, en dépit de protestations émises d'une voix très faible, fit reconduire M. Ward chez lui. Ensuite, il prit une torche, se couvrit les narines avec de la gaze et descendit dans la cave pour examiner le puits. L'air était devenu plus respirable et Willett parvint à éclairer ce passage vers le Styx. Sur 3 mètres en profondeur, il vit un trou cylindrique cimenté, comprenant une échelle métallique. Plus bas, on apercevait un escalier de pierre qui devait à l'origine émerger à l'air libre un peu plus au sud-ouest du bungalow actuel.